Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez l'Arène, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, l'étage qui ferme et le festival Travelling qui déménage. Deux interviews d'abord avec les invités du prochain Café Mortel sur les fleurs et la mort. Puis on annonce les 10 ans du festival Entrela à Bourg-des-Comptes avec les poissons marcheurs. Il y aura de la musique dont une nouveauté et puis une recommandation, une rencontre en librairie autour de la Terre. Bienvenue dans l'Arène. Tous les jours, cette émission d'information locale, elle débute avec une info du jour qu'on choisit pour vous dans l'actualité locale. Et aujourd'hui, c'est Corentin Petitclerc, volontaire en service civique à Canal B depuis le mois d'octobre, eh bien, qui s'en charge.
L'info du jour, c'est un coup dur de dernière minute pour le festival Travelling. Le festival rennais de cinéma, dont la soirée de lancement était mardi 20 février, devait organiser un concert de l'artiste Vitalik à l'étage, la salle située au-dessus du Liberté. Lors du festival, l'étage est habituellement le QG dans lequel les rencontres et festivités peuvent se dérouler. Sauf que cette année, pas de chance pour l'association Clair Obscur, organisatrice du festival, la ville de Rennes a annoncé devoir fermer la salle pour des raisons de sécurité. L'info est tombée mardi à 16h, alors que la salle s'apprêtait à ouvrir pour lancer la 35e édition du festival. La cause de cette fermeture serait, selon la ville de Rennes, l'observation d'un mouvement ondulatoire du plancher lors d'un concert lundi 19 février. Par mesure de précaution, la ville a donc demandé une expertise technique, ce qui entraîne la suspension de toute activité de la salle. A priori, toujours selon la ville de Rennes, les événements et spectacles prévus à l'étage devraient, dans la mesure du possible, être redirigés vers d'autres lieux culturels. Pour ce qu'il en est du festival Travelling, le concert prévu hier soir a quand même pu avoir lieu, pas à l'étage, mais il a été décalé à la dernière minute à l'Ubu, une autre salle de concert de la ville. Pour la suite du festival, les organisateurs ont annoncé que les concerts et la restauration ne pourraient pas avoir lieu à l'étage, mais que l'équipe mettait tout en place pour trouver un nouveau lieu pour établir leur quartier général. Des informations devraient arriver dans la journée pour en savoir plus. Voilà pour l'info du jour, et on passe maintenant à une première interview.
Bertie Inge et Françoise Martin, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes toutes les deux fleuristes à Rennes et vous animerez le prochain Café Mortel de la coopérative funéraire, c'est le 20e et ça se passe jeudi 22 février à partir de 18h30 au Café Cortina ici à Rennes. On commence par raconter un peu aux auditeurs comment est-ce que vous êtes toutes les deux arrivées dans le monde des fleurs, peut-être avec Bertie pour commencer, qui a en fait repris une activité sous forme d'atelier qui s'appelle Cœur d'artichaut.
Oui, c'est ça. J'ai repris une activité sous format d'atelier qui existait déjà depuis une dizaine d'années à Rennes. Et donc j'ai repris l'atelier en juillet 2023 où je travaille avec les mêmes valeurs que la personne d'avant, c'est-à-dire en fleurs françaises.
Et il s'agit d'une reconversion.
Et oui, une reconversion. Avant, j'étais dans l'accompagnement à la création d'entreprises en économie sociale et solidaire. J'ai vécu un petit peu à l'étranger, au Canada, où j'ai pu voir qu'on pouvait faire des fleurs et être fleuriste autrement en s'improvisionnant de façon locale. Et du coup, dans mon chemin, je me suis dit que c'était le moment aussi de pouvoir me reconvertir.
Avec donc un atelier qui est installé dans le centre-ville de Rennes, pas très très loin de Canal B. Je me tourne vers Françoise, vous vous êtes formée en Allemagne et au Japon, et jusqu'à très récemment, là jusqu'à la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, vous aviez une boutique dans Rennes, son nom Akane, qui est décrite comme une galerie végétale. C'est une page qui se tourne, mais vous avez dans l'idée d'essayer de faire renaître ce projet sous une autre forme, Françoise ?
Oui, tout à fait. En fait, ça reverra certainement le jour au printemps. Là, il y a une pause administrative, on va dire. Et effectivement, pour ce qui concerne mon parcours, il a été déterminant en Allemagne, où j'ai appris la technique, différentes techniques de travail sur le végétal et la fleur. Il y a 30 ans de ça, et c'est ce qui a aussi déterminé la suite, à savoir ma façon, mon appétence pour le végétal au même titre que la fleur. Donc, c'est-à-dire que je me revendique autant fleuriste que végétaliste.
Vous pratiquez notamment le graphe végétal. Ça ressemble à quoi, là, pour essayer de décrire aux auditeurs ?
J'en fais plus beaucoup. On en a fait avec un collectif qui s'appelle les Frimousses pendant 10 ans. C'est une technique qui vient des États-Unis, Guerrieros Gardening. Et en fait, on applique simplement de la mousse végétale avec de la farine et de l'eau. Et c'est une pratique qui est issue des années de 1990, on va dire, aux États-Unis. Et c'est un mouvement qui est toujours d'actualité, hein, qui s'appelle, ce que je vous ai dit donc précédemment, les Guerrieros Gardening.
Alors, je le dis aux auditeurs, j'ai vu qu'il y avait un financement participatif qui venait de se terminer justement pour essayer de faire renaître le projet Acané. Et vous avez dans l'idée de développer une coopérative de professionnels autour du végétal. Donc, pas que des fleuristes, ça pourrait ressembler à quoi ?
Ça pourrait ressembler à des passionnés, des gens passionnés, passionnants autour du végétal. En fait, je suis entourée de gens très compétents tels que producteurs, paysagistes, artistes, herboristes, végétalistes, plasticiens. Et travailler aussi avec les écoles, c'est-à-dire faire une espèce d'atelier de laboratoire aussi pour expérimenter plein de choses pour ces jeunes en devenir dans toutes les professions qu'ils auront choisies. Mais en fait, je trouve que dans les écoles, il n'y a pas assez de pratique autour du végétal et que j'aimerais bien que ce soit aussi un lieu congruent pour expérimenter. Voilà.
Donc un projet à suivre. Alors ce qui vous réunit toutes les deux, Bertille et Françoise, c'est un intérêt marqué pour des fleurs issues de circuits plus durables. Concrètement, ça veut dire quoi ? Des fleurs qui ont moins voyagé pour arriver entre les mains des clients et puis peut-être aussi avec des méthodes un peu plus respectueuses de l'environnement pour les faire pousser ?
Exactement. Il y a même maintenant, depuis quelques années, le collectif de la flore française qui a vu le jour et ça permet que ce soit pour nous les fleuristes d'être en lien très proche avec des producteurs. D'ailleurs, en Bretagne, il y a de plus en plus de fermes florales qui voient le jour. Et ça permet aussi aux clients, en allant sur le site, d'avoir un annuaire, un répertoire de fleuristes qui proposent en fait des fleurs françaises à leurs clients.
Ce qui se passe, c'est que entre les émissions effectivement qui diffusent l'information sur la fleur locale et effectivement tous les producteurs qui commencent à monter leur projet depuis on va dire 4-5 ans, la réalité c'est que les consommateurs sont pas encore tout à fait au fait de ça, à savoir la dernière Saint-Valentin, plus de la moitié des clients voulaient quand même encore des roses.
Alors c'est quoi le problème avec les roses ?
Bah c'est qu'elles viennent de Kenya, Colombie, Amérique latine et Afrique du Sud. Et que, moi, par exemple, j'en avais pas, donc, ça pose question. Donc, en fait, ça va être long. Le chemin est encore long.
Il y a une grosse partie de sensibilisation à faire aux clients, qui se rendent pas compte qu'en fait, que les fleurs ont fait des kilomètres et des kilomètres. Et puis, même sur les conditions humaines dans lesquelles c'est fait, dans les pays que Françoise a cités, ils utilisent des pesticides qui sont interdits en Europe, mais du coup, autorisés dans les autres pays.
Et est-ce que, par curiosité, quand on a des fleurs qui sont du coup peut-être pas des roses, mais donc des fleurs plus locales, de saison, est-ce qu'on peut s'y retrouver au niveau du prix ?
Oui. Oui, complètement.
Vous hochez de la tête.
Oui. On peut avoir plein de belles fleurs de saison. Là, cette année, c'était des belles renoncules rouges, des anémones rouges. Si on veut rester sur le cliché rouge Saint-Valentin, mais on peut faire plein d'autres belles choses.
On arrive doucement vers ce café mortel auquel vous participerez jeudi. Alors les cafés mortels, on le redit aux auditeurs qui ne connaissent pas ce format, ce sont des rencontres organisées par la coopérative funéraire de Rennes qui veut lever le tabou sur le sujet de la mort et puis explorer ce thème à travers plein d'entrées. C'est toujours passionnant. Là, il sera donc question de fleurs. Pour commencer, est-ce que ça occupe une place importante dans les commandes qu'on passe à une fleuriste, qu'il s'agisse de la couronne qu'on va déposer sur le cercueil ou du bouquet qu'on va amener pour fleurir les tombes, c'est vraiment présent dans le quotidien, ce genre de demande, Bertille ?
Moi, c'est assez aléatoire, on va dire, parce que déjà, j'ai pas une boutique avec pignon sur rue, il faut connaître l'atelier pour me commander des fleurs pour le deuil.
Moi, je travaille comme partie essentiellement en partenariat avec la coopérative funéraire. J'en suis ravie. Et effectivement, le deuil représente chez les fleuristes beaucoup en campagne, quand même probablement 40 à 50% quelquefois du chiffre d'affaires. En ville, c'est pas tout à fait la même dynamique, notamment sur... on en parlera au Café Mortel, mais sur les protocoles sont pas tout à fait les mêmes en ville qu'à la campagne, autour du deuil, justement. Donc, on n'a pas tout à fait la même clientèle et de fait, on fait pas tout à fait la même chose parce que j'ai travaillé en fait 13 ans à Guichin où j'avais une boutique et effectivement, j'avais pas du tout le même rapport avec les clients autour du deuil à Guichen que à Rennes, à Canet par exemple.
Alors moi, si on me dit fleurs et morts, les premières choses auxquelles je pense, ce sont les chrysanthèmes, voilà, les fleurs qu'on retrouve notamment au moment de la Toussaint, et puis à ces couronnes funéraires. Je me demandais comment est-ce qu'on compose un bouquet lorsqu'il est prévu dans ce cadre. Est-ce que ça amène des contraintes? Est-ce qu'on peut essayer de s'en libérer un peu de ces clichés floraux autour de la mort, Bertille?
Effectivement, il y a le, on sait, chrysanthème, c'est au moment de la Toussaint. Oui, on peut s'en libérer des contraintes. En fait, moi, ce que j'aime demander aux clients quand ils m'appellent, c'est est-ce que vous avez une envie, une couleur? Donc là, de ce point de vue-là, on n'a pas forcément de contraintes. C'est plutôt qu'est-ce qui vous fait penser à la personne? Enfin, il y a vraiment plein de choix possibles. Et moi, dans mes compositions de deuil, ce que je fais... J'utilise pas de mousse florale, en fait, qui est remplie de plastique et qui est pas du tout compostable et biodégradable.
La mousse florale, c'est cette sorte d'éponge verte là qu'on retrouve très régulièrement dans des compositions.
C'est ça. Et en fait, on peut rien en faire après. L'eau, elle est polluée. Donc, en fait, on peut utiliser plein d'autres techniques, en fait, pour pallier à la mousse florale.
Du genre, on donne un exemple.
Bah ouais, du grillage à poule. Ça permet de faire tenir les tiges.
Françoise Martin, la même question sur les contraintes de composer dans le cadre funéraire et si on peut se libérer un peu des contraintes.
Totalement, en fait. Pour moi, il n'y a pas trop de contraintes. C'est souvent des moments très émouvants avec les personnes qui viennent à notre rencontre. Et les pratiques sont ultra larges, vraiment. Et c'est souvent des gens, ils sont dans un tel moment de recueillement que c'est souvent assez beau. Et en fait, les pratiques sont énormes. Et ça ne fait que s'ouvrir de plus en plus, notamment avec la COPFEN. Hein.
Donc avec la coopérative funéraire de Rennes, qui est vraiment dans une démarche assez alternative et qui défend un accompagnement autour des personnes en deuil hors du business, on va dire ça comme ça. Et... Vous parlez de l'émotion, évidemment liée au deuil des personnes qui viennent dans vos ateliers. Vous diriez qu'un bouquet amené lors d'un enterrement ou déposé sur une tombe, il vient dire quoi symboliquement ? Il y a quand même toute une dimension sensorielle en plus avec les odeurs, les couleurs.
Oui, effectivement, il y a tout ce côté-là. Et puis de la personne qui va l'offrir à la personne qui est partie, c'est... rendre hommage, de dire un au revoir aussi. Et ce que j'aime aussi dans les compositions, c'est de pouvoir faire des bouquets à partager pour aussi ramener un petit souvenir chez soi et continuer à penser à la personne.
Je ne connaissais pas cette pratique-là. C'est courant d'avoir un bouquet à partager ?
Non. C'est comme ce qu'on disait juste avant. Il n'y a pas forcément de pratique. Enfin, on peut tout imaginer autour du deuil et ramener une petite pensée de la personne pour faire perdurer l'hommage et la pensée.
Oui, c'est ça, c'est un hommage, hein. C'est clairement un hommage, et la fleur est emblématique de ça, c'est-à-dire c'est la vie. Effectivement, on la coupe, on l'accueille pour rendre hommage, donc c'est un double hommage et au végétal et à la personne défunte. Et effectivement, dans les pratiques de travailler avec le recueillement, moi ça m'est déjà arrivé de faire des mandalas que de végétaux, et c'est magnifique parce que c'est congruent, ça rassemble, et c'est un hommage commun à la personne défunte. Enfin, il y a toutes les pratiques sont vraiment vastes, mais effectivement, celle-ci, c'est celle dont je me souviens le plus là quand vous me posez la question. Ouais.
Un mandala végétal, ça se compose comment? Du coup, c'est au sol, c'est sur quelle dimension?
C'est spontané, c'est complètement spontané. C'est-à-dire, moi, j'amène la matière, je rassemble des enfants et des adultes, hein, et en fait, chacun est au sol et on travaille autour de la matière, on fait quelque chose d'harmonieux, mais qui est complètement spontané. Il n'y a pas de recherche d'esthétisme, c'est le geste qui accompagne et qui est le recueillement.
Ces sujets-là qu'on évoque, ils sont évoqués plus dans le détail, donc lors d'un café mortel organisé jeudi 22 février à 18h30 au café Cortina à Rennes, donc sur le thème des fleurs et de la mort. Juste avant ce temps d'échange, il y aura un atelier floral organisé en votre compagnie, Bertille et Françoise. On le dit, ça affiche complet. C'est un atelier d'une heure durant lequel les participants vont eux aussi composer une création florale. Françoise Thérèse Martin, je voulais terminer en annonçant un événement à venir pour vous. C'est dans le cadre d'un festival qu'on va annoncer plus longuement dans cette émission d'information locale pour parler du festival Entre-là. On va vous retrouver avec une installation dans une chapelle. Vous nous en dites un peu plus ?
C'est ce week-end, donc à Bourg-des-Comptes, donc Entre-là, le collectif Les Poissons Marchands organise tous les deux ans un festival qui s'appelle Entre-là. Ce sont des exposants, artistes dans des maisons.
Votre installation, elle s'appelle Poème du Ciel, ça va ressembler à quoi ?
Alors nous, on fait une installation dans la chapelle Notre-Dame de Bon Secours à La Courbe, avec Marie-Michel Hamon et Mathilde Duhaut. Donc c'est une installation végétale qu'on est en train de faire pour ce week-end et qu'on a envie de proposer aux visiteurs, et donc ça c'est une surprise. En tout cas, c'est des végétaux de vie qu'on a glanés ici et là près de la Vilaine, parce que la chapelle borde la Vilaine, et qu'on va mettre en scène pour ce week-end. Voilà.
Donc c'est à voir les 24 et 25 février dans le cadre du festival Entre-là. Je vous représente toutes les deux, Bertie Inge et Françoise Martin. Vous êtes fleuriste à Rennes et vous animerez le prochain Café Mortel de la coopérative funéraire de Rennes. Ça se passe donc jeudi 22 février à 18h30 au Café Cortina à Rennes. C'est un événement sans réservation mais avec une jauge réduite. Il vaut donc mieux arriver un petit peu en avance et je pense qu'il y aura du monde. Pour plus d'infos, il y a le site La Coop Funéraire de Rennes.fr. Merci beaucoup.
Merci.
Merci, à bientôt.
Il faudra que je vous dise, jeune homme, quelles sont mes fleurs préférées. Dites-moi, oui, dites comment se nomment vos fleurs préférées. Ce sont les œillets petits, les œillets roses pâles. Enfant, je vis près d'un champ d'avoine, sur une route en campagne. Un cocher qui faisait halte pour nourrir son cheval. Mange, mange donc animal, mange, disait son maître aval. Cette jolie botte d'herbe, repais-toi de cette gerbe. C'est alors que je l'ai vu, seul dans la botte perdue. L'œillet, prisonnier de l'herbe, noyé dans la botte d'herbe. L'œillet rose pâle, l'œillet petit, que le cheval engloutit.
Feu Chatterton avec le morceau Les œillets sur Canal B. C'était le choix musical de Bertie Inge qu'on vient d'entendre en interview qui gère l'atelier floral Cœur d'Artichaut. Et ce titre, vous pouvez le retrouver sur un album qui est en fait la bande-son du film La Grande Magie. C'est sorti en 2023 et réalisé par Noémie Lvovsky. Vous écoutez La Reine. C'est l'émission d'info locale de Canal B. Cette année, tiens, notre radio associative fête ses 40 ans. Et pour cette occasion, nous sommes en train de concocter toute une série d'événements et il y a d'ores et déjà un répondeur qui attend vos messages. En effet, pour marquer le coup, on recueille vos souvenirs de Canal B sous forme de messages vocaux, et pour participer, rien de plus simple, vous pouvez ajouter le numéro suivant dans vos contacts WhatsApp, c'est le 07 60 24 95 77, et ensuite vous pouvez vous enregistrer, vous savez, en maintenant votre pouce sur le micro pour commencer par vous présenter et puis pour nous raconter votre souvenir marquant lié à la radio Canal B, qu'il s'agisse d'un groupe découvert sur nos ondes, d'une participation à une émission, d'un moment de radio que vous considérez comme inoubliable ou encore d'une rencontre qui a été déterminante. N'hésitez pas à donner dans le détail, et puisque les messages vocaux c'est un peu magique, vous pouvez même nous faire écouter des ambiances autour de vous, de la musique dans votre salon, un concert dans un bar ou encore le son de votre cafetière. Soyez créatifs. Ces messages vocaux, ils seront ensuite diffusés lors d'un événement, pour le moment tenu secret, pour fêter donc les 40 ans de Canal B. Allez, on va poursuivre cette émission avec maintenant une deuxième interview. « Charlotte Cabanis et Mathieu Ramage. Bonjour.
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 Je vous présente Charlotte, vous faites partie de l'association des poissons marcheurs qui organise le festival Entrelacs. La 10e édition, c'est du vendredi 23 au dimanche 25 février à Bourg-des-Comptes. On est à 30 minutes au sud de Rennes. Et Mathieu Ramage, vous êtes artiste, musicien, chanteur rennais et à l'affiche de cet événement qu'on annonce aujourd'hui. La particularité de ce festival, c'est qu'il est organisé en partie dans des maisons d'habitants et donc il y en a 15 des maisons qui vont accueillir des propositions cette année. Première question, pourquoi cette lubie? Ça crée quoi en termes d'ambiance d'être chez les gens?
Alors, c'est parti d'abord d'un constat. On est une bande d'habitants qui sommes des amoureux de spectacles et d'art. Et on est parti du constat qu'on n'avait pas de lieu de spectacle, d'une part, et puis pas non plus à l'époque de lieu d'expo. Et du coup, on avait envie de faire venir les artistes chez nous, à la campagne. Et donc, chez nous, c'est aussi dans nos maisons, c'est sur notre territoire, c'est dans notre paysage. Voilà, l'envie. Et donc, on a créé ce festival sous forme de promenade qui permet vraiment de naviguer à la fois dans le paysage et de pénétrer des maisons. Et de pénétrer, du coup, des maisons où sont accueillis des artistes. Et donc de créer des passerelles entre artistes et habitants.
Vous parlez de promenade, il faut expliquer que ces maisons, elles sont donc situées à Bourg-des-Comptes, près de la Courbe, on est au bord de la Vilaine. C'est une ancienne gravière, on peut essayer de décrire un peu le lieu pour les auditeurs qui n'y sont jamais allés.
Alors le lieu, déjà on est en bord de Vilaine, on est dans les vallons de Haute-Vilaine, donc c'est un paysage qui est très vallonné, qui est effectivement une ancienne gravière et qui a eu, je pense, dans l'ancien temps, vraiment une forme de grande richesse. Je pense que les bateaux passaient là. Donc on a aussi des très très belles maisons, des anciens manoirs, donc de la belle pierre, des très vieux arbres aussi. Et cet espace de la Courbe est particulièrement beau.
Là, on se retrouve pour annoncer les 10 ans de cet événement porté par les poissons marcheurs. Est-ce que l'événement a évolué sur ces 10 ans, avec peut-être de plus en plus de gens convaincus, et côté spectateur et côté artiste, par la démarche?
Alors oui, il évolue. Heureusement, il évolue parce que au départ ça a été que des artistes plasticiens et puis on s'est dit mais des spectacles on peut aussi en faire dans les maisons, on va faire de la place, et puis on s'est rendu compte que les artistes aussi étaient se prenaient au jeu de cette proximité, de cette intimité avec les gens. Et puis pour cette 10e édition, on s'est dit il faut qu'on marque un peu plus le festival et on a choisi cette année de créer des thématiques par maison et du coup de sélectionner des artistes autour de ces thématiques. Donc c'est pénétrer chez les gens, mais c'est pénétrer un univers. C'est aussi pour les artistes s'entrecroiser, puisqu'on met des artistes côte à côte
qui ne se connaissent pas forcément,
connaissent pas toujours. Donc c'est aussi ça. Et puis les gens qui accueillent, c'est aussi qu'est-ce qu'on crée comme espace chez nous et qu'est-ce qui se passe entre nous et les artistes, quoi.
Vous êtes combien aujourd'hui dans les équipes pour faire exister cet événement?
Cette année, on va dire qu'on tourne autour de 8 personnes.
Ce qui est une petite équipe pour organiser autant de choses.
Toute petite équipe, mais par contre on a un crew de bénévoles et puis aussi je compte pas dans cette équipe les maisons qui accueillent, mais ils sont là aussi et heureusement qu'ils sont là, voilà. Donc ça représente peut-être avec les bénévoles, on va être peut-être une trentaine en tout sur l'événement.
Mobilisés sur cet événement qui arrive là, le week-end prochain, et on le dit, si jamais il y a des auditeurs qui sont intéressés pour être bénévoles, même si c'est un peu juste, il est encore temps de s'investir.
C'est pas possible.
On donne le site internet lespoissonsmarcheurs.wordpress.com pour plus d'informations. Très concrètement, du vendredi 23 au dimanche 25 février, le public va pouvoir découvrir dans 15 maisons le travail d'artistes et d'artisans. Ils seront 2 à 4 par maison, un peu dans un esprit expo vente, on pourra repartir aussi avec des œuvres.
Tout à fait, ce sera possible d'acheter des œuvres, mais c'est aussi possible de juste regarder.
Ce sont des artistes et artisans de la région, alors peut-être Bretagne
Bretagne, on va dire ça, oui. En fait, on est parti de ce constat-là aussi, c'est que dans nos territoires, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'artistes. Et on avait envie de valoriser ce travail-là. Et puis, alors on élargit un petit peu, là il y a aussi des gens d'un peu plus loin, mais en gros, oui, on reste sur un périmètre breton.
quelle diversité de techniques, d'objets et d'univers on va rencontrer à travers ces 15 maisons.
Et puis, hein, c'est large. On va avoir à la fois des artisans, donc plutôt des bijoutiers, mais alors c'est toujours vraiment eux qui créent l'ensemble de leurs œuvres. On a des graveurs, on a des brodeuses cette année. On a aussi des gens qui travaillent autour du végétal. On a également des ébénistes, de la gravure sur bois, des vanniers, de la sculpture textile, sculpture métal, du dessin, de la photo aussi.
Et tout ça, c'est à voir en continu, donc tout le week-end.
Voilà, alors c'est le samedi, les maisons ouvrent de 14 à 18h, le matin les artistes s'installent, et puis le dimanche de 10h à 18h aussi.
Et petite particularité, ces 15 maisons, elles vont être un peu organisées selon différents thèmes, notamment, moi j'ai retenu la maison mortelle, mais il y en a d'autres qu'on peut citer.
Oui, bah, la maison mortelle, la maison tout un monde, une maison sur le fil, une maison en équilibre, une maison hybridation, une maison champ aussi. Une maison empreinte, en équilibre, mise en lumière, art au quotidien. Voilà, j'en oublie certainement, mais voilà, ça donne un aperçu. Et puis la maison mortelle, c'est un peu la petite nouveauté aussi, c'est que cette année, on fait un partenariat avec la coopérative funéraire de Rennes. Et donc, la coopérative, ayant en contact régulièrement des artistes, eh bien, nous a proposé de porter une maison. Donc voilà, on va avoir des céramistes, on va avoir des plasticiennes qui étaient récemment d'ailleurs en résidence à l'hôtel Pasteur. Donc, on va un peu avoir le fruit de ces 3 mois de résidence. Donc, elle recherche autour de la céramique et de la nourriture. Mortel.
Tout ça, c'est à découvrir à Bourg-des-Comptes ce week-end, donc dans 15 habitations qui vont accueillir le public avec des artistes et artisans qui seront présents sur place. Ça, c'est plutôt pour le côté donc à la fois expo et vente de tout ce travail, mais également durant le week-end, 10 spectacles à découvrir, si j'ai bien compté, du chant, des contes, de la danse aussi. L'ouverture, c'est avec vous, Mathieu Ramage, on le redit, vous êtes rennais, artiste, musicien. Vous présenterez Jamais Tranquille, c'est un spectacle que vous avez créé en 2021 et ce sera vendredi soir à 20h30. Comment est né ce spectacle ?
Bah c'est mon premier spectacle solo. À l'époque, on était un peu imposé de rester chez nous. Donc nous, les musiciens, jouer avec les copains, tout ça, c'était un peu plus compliqué. Donc j'ai commencé à écrire ce spectacle-là à ce moment-là. Et puis après... pendant les 2 années qu'on suivit, j'ai travaillé là-dessus, j'ai écrit un autre spectacle, j'ai essayé d'en faire un spectacle commun. Et voilà, c'est parti à ce moment-là. Après, j'ai eu la chance d'avoir justement un ami qui organisait des spectacles chez l'habitant juste après justement cet épisode, qui m'a permis de faire une première représentation. Ça s'est bien passé, et puis du coup, ça m'a donné envie de continuer. Donc ça a été le début, et puis du coup, j'en ai écrit un album qui va sortir là tout bientôt, donc... c'est un petit peu le...
L'aboutissement,
ouais. C'est ça.
Chanson joyeuse, c'est le titre de l'album qui va paraître tout début mars, le 1er mars, et qui sera présenté ici à Rennes lors d'une date qu'on va annoncer dans un instant. Comment écrire des chansons joyeuses et colorées dans un monde qui ne tourne pas rond ? C'est un peu la question qui vous anime. Et alors, si j'ai bien compris, le public choisit certaines des chansons que vous interprétez
Alors, le public ne choisit pas forcément certaines chansons, mais le public va pouvoir choisir le spectacle qui va avoir lieu, parce que c'est un spectacle et 2 propositions. Donc je fais un tirage au sort en début de spectacle pour savoir lequel spectacle je vais jouer. Et moi-même, je ne sais pas vers où je vais aller.
Alors là, il faut dire que vous jouerez au Chapiteau lors de l'événement du festival Entre-là. Donc le Chapiteau qui est situé où dans
Bourg-des-Comptes ? Alors il est situé juste derrière la place de la Courbe.
Donc en plein cœur de l'événement, le même soir, il y aura aussi Eva Luna qui elle sera au piano-voix pour jouer devant le public. Vous avez donc déjà joué chez l'habitant, là ce sera pas le cas, mais vous avez déjà joué dans des contextes un peu différents d'un contexte en salle.
Alors mon spectacle, je l'ai monté vraiment pour des programmations un peu différentes, justement un peu alternatives, que ce soit chez l'habitant, dans des tiers-lieux. parce que j'avais envie d'explorer ça. C'est quelque chose que j'avais déjà fait en tant qu'artiste. Et ouais, jouer devant 20, 30 personnes qui sont vraiment là pour un spectacle, vraiment à l'écoute, je trouve ça très agréable. On est entre nous, il y a un échange qui s'effectue après le spectacle. En plus, il y a une confiance de la part de la personne qui te programme chez elle. Du coup, tu as envie de le lui rendre.
Il y a un truc plus humain qui se joue, quoi.
C'est ça. C'est ça. Et moi, la plupart de ce que je fais, c'est la pratique des mots. Les mots, c'est quelque chose qui doit être entendu. Et du coup, dans un petit contexte, avec un petit public au départ, en tout cas, ça permet de vraiment donner accès, du coup, à ce qu'on fait et que le public le prenne à 100%. Et je trouve ça très agréable d'aller jouer chez les habitants.
Ces mots, on les écoute avec un extrait donc, de votre premier album qui va sortir tout début mars. Le titre, c'est « J'ai couru avec mes mots ».
Si j'ai écrit, c'est pour m'enfuir, pour fuir mes émotions de trop. Comme j'ai toujours eu peur du pire, ben j'ai couru avec mes mots. Ouais, j'ai couru avec mes mots. La revanche en bon capitaine, si je voulais être au-dessus du lot, c'est que j'avais peur d'être à la traîne. Puis j'avais peur d'être tout petit, je voulais me regarder dans la glace. Je sais pas ce que j'ai mal pris, mais la vengeance a pris la place. Elle est devenue mon moteur, mes mots mon arme de combat. Mais si je voulais de la hauteur, c'était pour voir les autres en bas. Pourquoi j'ai pas choisi d'aimer comme un unique leitmotiv? Non, faut que ça soit dur à porter pour que je me coupe en quatre létifs, à même de me réinventer. S'il ne faut pas perdre la face, les mots de savoir les manier, j'ai pu les rendre dégueulasses.
Mathieu Ramage, on vient de vous entendre avec le morceau « J'ai couru avec mes mots » qu'on retrouve sur un album « Chansons joyeuses » qui va sortir le 1er mars. Et vous serez sur scène à Rennes pour le présenter sur la scène du 4 bis, juste à côté de Canal B. C'est comment de sortir un premier album dans une vie?
C'est un truc qui me tenait à cœur depuis longtemps. Moi, j'ai travaillé cet album-là avec un ami qui, lui, a arrangé. En fait, c'est un album qui n'est pas que piano-voix, qui est arrangé par quelqu'un qui je faisais beaucoup confiance, qui s'appelle Nico Châtelain. Moi, j'évolue dans des groupes depuis des années et en fait, je pensais pas partir sur un projet solo. C'était pas forcément dans l'objectif, mais forcément, enfin, je me disais peut-être qu'un jour et d'avoir un album à mon nom. Alors au début, ça a été dur à assumer parce que c'est mon nom que je portais en 6e E aussi. Donc des fois, j'ai du mal à l'assimiler au nom d'artiste. Donc j'ai hésité d'ailleurs d'avoir un pseudonyme, tout ça. Puis au final, je me suis dit bon, c'est mon nom, je vais le garder. Et c'est vrai que de voir la pochette, de voir son nom, que ce soit vraiment des chansons qui me tiennent à cœur, avec quelqu'un avec qui j'avais vraiment envie de bosser, ouais, j'ai hâte que ça sorte.
Et donc on vous retrouvera sur la scène du festival Entrela, vendredi soir à 20h30, ça se passe au Chapiteau, donc à Bourg-des-Comptes. Charlotte Cabanis, Entrela, c'est donc ce week-end avec 15 maisons, on le redit, qui vont accueillir des artistes, des artisans et des spectacles, avec à chaque maison son thème. Et c'est le moment où on peut dénouer des exemples de ce qui va se passer côté spectacle. Dimanche, il y a Marion et Xavier qui accueillent un spectacle jeune public, et le même jour Fred et Franck qui accueillent eux du théâtre d'objets.
Alors,
est-ce que c'est la première fois que ces habitants se prêtent au jeu?
Alors Marion et Xavier ont déjà accueilli des artistes exposants, des expos. Et Franck et Fred, oui, ils adorent accueillir des spectacles.
Donc des gens plutôt habitués.
Oui. Alors, en fait, nous, on a toujours eu envie qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Donc il y a toujours un spectacle jeune public, là cette année il y en a deux, il y en a un pour les tout petits qui se passera à la médiathèque le samedi, et un pour les un peu plus grands le dimanche. Zaina, donc c'est deux femmes qui interprètent un conte qu'elles ont écrit, elles sont chanteuses, musiciennes et danseuses, donc c'est un voyage vraiment, et la thématique du spectacle c'est autour du voyage d'une petite fille, d'un exil, d'une migration, voilà.
Un matin c'est la panique à la maison. La grand-mère de Zaina, le regard noir et obscur, s'approche d'elle. Elle dort encore. Elle lui dit « Vite, vite, dépêche-toi, vous devez partir. »
Pas à pas,
partir.
Je m'éloigne.
Mais pourquoi ?
Je quitte cette terre. Mon cœur et mon âme pleurent. Ses sons et ses odeurs.
Et voilà la petite famille sur la route. C'est le début de ce long voyage.
C'est à partir de 4 ans avec la compagnie Dis Pourquoi, donc le dimanche 25 février à 11h et à 16h chez Marion et Xavier, et le même jour donc chez Fred et Franck. Un spectacle alors aussi pour les enfants, mais un peu plus grand à partir de 10 ans.
Là c'est du tout public à partir de 10 ans. Pareil, chaque année on adore le théâtre d'objets. Et donc chaque année on a un artiste autour du théâtre d'objets qui se prête bien aux maisons parce qu'en général c'est des petits espaces. Et donc cette année, c'est Marjorie Blériot qui viendra nous raconter la vie d'une femme qui tente de se raccrocher à une tradition familiale qui est le tricot, sauf que elle sait pas tricoter, et donc ça va nous emmener dans un peu sa vie.
Surgissent alors des souvenirs qui grattent, son enfance au milieu des moutons, et puis Gérard, la première fois qu'elle croise le loup, c'est à voir dimanche chez Fred et Franck à Bourg-des-Comptes. Entre là, ce sont aussi des choses, vous l'avez évoqué, à voir à la médiathèque, au chapiteau, on l'a dit, et puis place de la Courbe.
Place de la Courbe, il y aura la compagnie Coquille & Co qui jouera place de la Courbe et devant chez Marie Bigoud, qui est aussi une maison qui ouvre ses portes et qui est aussi une crêperie éphémère, on va dire, de week-end et plutôt l'été, mais qui là fera aussi des crêpes et des galettes. Et donc le portrait de ton âme, ils viennent au chapeau. C'est une artiste qu'on avait déjà accueillie parce qu'elle est illustratrice et elle a fait une formation longue autour de la marionnette au théâtre à mains nues. Et cette année, elle nous a proposé de venir avec son compagnon qui est musicien. Et en fait, elle va donc allier marionnette et dessin, puisqu'elle va faire des portraits de gens avec sa marionnette, une mamie, et qui va faire des portraits de nos âmes.
Le portrait de ton âme, c'est avec Coquille & Co, tout public, hein, une proposition sans parole qui dure 20 minutes à vivre donc dans le cadre de ce festival.
Rocío Araya et Emmanuel Cotino.
On n'a pas parlé des tarifs, mais c'est pensé pour être très accessible. Il y a des choses à prix libre et sinon ça va à peu près de 4 à 8 euros la proposition.
Au maximum 8 euros, c'est plutôt autour de 4-5 euros. Et puis on a une proposition, on fait toujours venir un clown contemporain. D'ailleurs j'insiste aussi sur le fait qu'on fait venir que des artistes professionnels. C'est important, on défend aussi cet aspect-là. Et cette année, ben, on n'a pas eu un clown solo, mais on a une proposition qui s'appelle Schlada, qui est de la compagnie Ocus, qui est portée par deux frères, Benoît Bacchus et Jérémy Bacchus. Et c'est une proposition assez décalée, c'est une pièce montée pour deux musiciens gloutons. En gros, on est dans un mariage qui se prépare, et puis on a ces deux musiciens à qui on n'arrête pas de dire qu'il faut qu'ils se mettent bien contre les plantes, qu'on ne les voit pas trop en attendant que les mariés arrivent. Voilà, et donc ces deux frères entament une discussion et c'est très drôle.
C'est à voir quand ça ?
Ça c'est à voir samedi à 17h sous chapiteau. Il reste des places.
J'en ai entendu que du bien, que du très très grand bien.
Bon alors il faut que les auditeurs y aillent. Je termine en recommandant une dernière proposition. Alors il faut dire qu'il y en a une qui affiche complet Ce qui nous chante, c'est dimanche à 17h30 avec la compagnie D'ici là.
Ça a l'air dans la maison chant.
Très chouette. Et c'est un projet qui est soutenu par les Vallons de Haute-Bretagne Communauté, comme ce dernier spectacle dont je dis un mot, D'amour et d'eau fraîche, qui est proposé bien sûr la fin du festival, le dimanche à 16h sous chapiteau, avec la compagnie Accord Rompu. On en dit un mot ?
Ouais, bien sûr. Alors Accord Rompu, ils sont en résidence mission sur le territoire. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de les contacter. Donc j'ai contacté le directeur artistique et metteur en scène. Alors ils sont venus faire des portraits d'habitants dans le village et au début je me disais peut-être vous avez envie de parler de ces portraits-là, et puis il m'a dit attends, on a un spectacle qui s'appelle D'amour et d'eau fraîche qu'on a super envie de jouer. Donc c'est vraiment un spectacle qui est à la frontière entre le concert et le spectacle et qui parle du désir. Donc c'est deux musiciennes performeuses, on va dire, et ce sont que des textes d'auteurs qui n'ont pas écrit pour le théâtre, des textes qu'elles portent, et donc voilà, on va parler de désir.
Pour retrouver tout le détail de ces spectacles et de ce festival qu'on a annoncé, il y a le site lespoissonsmarcheurs.wordpress.com, également une page Facebook pour les poissons marcheurs où tout est détaillé proposition par proposition. Et c'est le moment où je vous représente, Charlotte Cabanis, vous faites partie de cette association qui organise le festival Entre là. La 10e édition, c'est du vendredi 23 au dimanche 25 février à Bourg-des-Comptes. On est à 30 minutes au sud de Rennes. Et Mathieu Ramage, vous êtes artiste, musicien rennais et on vous retrouve à l'affiche de cet événement. également en concert pour la soirée d'ouverture le vendredi soir. Les tarifs vont parfois du prix libre, souvent de 4 à 8 euros par proposition. Il y a une billetterie en ligne et, on le dit au passage, un espace ludique nomade pour penser pour les enfants avec Manu Facto qui, je crois, vient du Morbihan.
Scénographe qui fait des super beaux jeux. Et je voulais aussi dire que venez, même s'il fait mauvais, on a de quoi vous accueillir sous le chapiteau.
Et puis, il y a plein de choses dans les maisons, donc ça s'y prête plutôt bien en cette saison. Merci beaucoup.
Merci.
C'était une nouveauté musicale qui a été présélectionnée par Yann, notre programmateur musical ici à la radio. Et ce titre, vous pouvez le retrouver sur un album Souvenir. C'est sorti le 16 février. 11 titres qui forment le 4e disque pour ce trio venu d'Atlanta. L'Arène, c'est l'émission d'info locale de Canal B. Une émission qui vous tend son micro si vous avez une action ou un événement à relayer auprès des auditeurs. Tant que c'est dans le champ de l'information locale et que ce n'est pas à but purement lucratif, vous pouvez m'en informer par email à l'adresse lucie@canalb.fr. Et ensuite, je reprends contact avec vous pour vous proposer un échange au micro ici en studio. Pourquoi pas un reportage sur le terrain. Il est aussi possible d'en parler plus brièvement à travers une recommandation du jour. Et c'est l'heure, en compagnie encore une fois de Corentin, volontaire en service civique.
La recommandation du jour, c'est une rencontre avec les autrices Isabelle Deval et Véronique Duval, vendredi 23 février à 19h, à la librairie L'Établi des mots à Rennes. Dans le contexte actuel, le modèle productiviste de l'agriculture est de plus en plus remis en question. Il est souvent vu comme la seule façon de cultiver la terre, alors qu'il a un impact considérable sur les sols, les fermes et les corps. Les livres « Terre » d'Isabelle Deval et « Paysans et citoyens » de Véronique Duval sont deux livres complémentaires qui explorent des modèles agricoles différents et plus sains. Elles sont toutes les deux parties à la rencontre de maraîchers et maraîchères qui travaillent la terre autrement que dans le prisme productiviste. Elles ont écrit leurs livres en parlant de celles et ceux qui, encore aujourd'hui, font un bon usage de la terre. Durant cette soirée à la librairie L'Établi des mots, elles parleront de leurs reportages respectifs dans un cadre propice à l'échange, le débat et les rencontres. Pour savoir à quoi ça va ressembler, on écoute tout de suite un extrait de l'interview d'Isabelle Deval, passée dans l'émission en octobre 2023.
C'était pas possible dans tous les cas de bénévolement d'aller rencontrer toutes les fermes de Bretagne, donc il a fallu faire des choix. Donc j'ai souhaité rencontrer des représentants de modèles. Donc je pense entre autres à une ferme spécialisée en plantes aromatiques médicinales par exemple, sur le secteur du Finistère. Je pense également à des professionnels qui travaillent davantage en domaine polyculture élevage, donc avec l'association du maraîchage et des animaux, aussi l'attraction animale, etc. C'est vraiment la diversité que j'ai recherchée.
Et donc, diversité aussi dans les profils. Il y a des hommes, il y a des femmes, certains installés depuis peu, voire en cours d'installation, et jusqu'à 23 ans d'expérience. Pour aller les rencontrer, vous avez parcouru plus de 1000 km à vélo. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, cette histoire du moyen de transport? Est-ce que ça change l'esprit du photoreportage?
Oui, quelle idée, surtout que je déteste pédaler, et en particulier dans les côtes, donc oui, quelle idée. Initialement, je souhaitais faire ce projet au national, mais c'était très compliqué de constituer une équipe bénévole avec autant de temps à offrir. Donc ça s'est réduit à la région Bretagne, et c'est très bien comme ça, en rencontrant donc Aurélien, le dit photographe ambulant, qui lui travaille à vélo. Et bien je me suis dit pourquoi pas utiliser ce moyen de transport, et surtout pourquoi pas aller pousser plus loin la réflexion sur la consommation, puisque nous sommes là vraiment sur un support de réflexion sur la consommation aussi, et pas que sur la pratique agricole. Ce n'est pas un livre technique, et donc je me suis dit poussons plus loin la réflexion sur la consommation d'énergie aussi. Donc,
ça doit aussi changer forcément le rythme auquel vous avez mené ce photo-reportage, avec le temps peut-être de cogiter pendant que vous pédaliez, non?
C'était aussi l'idée, en effet, d'y aller plus lentement, de laisser les choses venir et s'apaiser, laisser partir. L'idée aussi de faire un effort dans la rencontre, voilà. Il y a un effort qui est fait, et de se rendre compte finalement, ouais.
Des distances aussi.
Des distances et de l'environnement dans lequel ces fermes se situent.
Au fil des 192 pages de ce livre, dont je peux redonner le titre, Terre, relier nos forces pour la préserver, on part avec vous dans des fermes de la région de Rennes à celle de Brest, avec pas mal d'arrêts à la frontière entre l'Ille-et-Vilaine et les Côtes d'Armor. Il y a aussi deux stops dans le Morbihan pour des rencontres donc sous forme d'entretien pour parler préservation de la terre. Un volet qui est défendu avant tout à travers une agriculture biologique, c'est ce qui relie l'ensemble de ces maraîchers et maraîchères bretons, mais pas que, ça permet d'aborder plein d'autres choses au-delà de l'agriculture biologique.
Oui, alors le livre reste ouvert, hein, dans le sens où je retrace surtout des entretiens assez bruts. J'ai pas de formation journalistique, donc il s'agit vraiment d'une rencontre qui parfois durait une demi-journée, une journée, parfois je repartais le lendemain. Donc on s'est vraiment laissé le temps de s'interroger ensemble à où est-ce qu'on en est finalement, nous, dans notre agriculture. Et donc les questions portaient davantage sur l'aspect social. C'est vraiment une approche systémique pour pouvoir offrir au travers de textes et des photos aussi, mais finalement des possibilités de se questionner sur la fonction même de l'agriculture. Y a-t-il qu'une fonction, celle de produire, ou y a-t-il d'autres fonctions ?
C'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la reine, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.